Chers amis, soyez les bienvenus. Ce matin, j'ai entendu une petite fille qui a prié et qui a remercié le Seigneur d'être avec nous tous les jours. Et c'est vrai, le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours et il nous l'a rappelé par la bouche de cet enfant. Et donc, je remercie le Seigneur aussi pour cela. Et pour moi, c'est un petit clin d'œil aussi du Seigneur parce que j'ai intitulé ce message « Une journée avec Jésus ». Et nous lisons le texte de Luc chapitre 4, voir comment Luc retranscrit une journée du Seigneur. Marc fait aussi... la même chose dans Marc chapitre 1. Et Luc chapitre 4, à partir donc du verset 31, nous allons voir comment Jésus a passé sa journée à Capernaum. Quelque temps avant, il était dans sa ville, Nazareth, mais malheureusement, les habitants de Nazareth n'ont pas reçu ce qu'il avait à leur dire. Il leur a dit que voilà ce qui écrit dans le livre d'Ésaïe, disant que le Seigneur l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et que voilà, il dit tout cela, ben aujourd'hui c'est accompli. Alors les Nazaréens n'ont pas apprécié que le Seigneur leur dit que voilà, du temps d'Élie, il y avait des veuves et puis mais Dieu a demandé à la veuve de Sarepta de prendre soin d'Élie, ou tout comme du temps d'Élisée, il y avait aussi des lépreux, mais Dieu a parlé à Naaman et Naaman a été guéri. Et donc le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, plein de miséricorde, plein de compassion, qui a une vision pas seulement, qui ne se limitait pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations, et nous le voyons déjà dès l'Ancien Testament. Donc le Seigneur Jésus-Christ va partir un peu précipitamment de cette ville de Nazareth, et nous lisons à partir du verset 31 de Luc chapitre 4, il est dit qu'il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jusqu'à là. Voilà, donc nous lisons dans ce texte que notre Seigneur est allé dans cette ville donc de Capernaum. C'était un peu sa ville refuge. Et Pierre l'accueillait chez lui. Et Matthieu chapitre 9 dit que Capernaum était sa ville pour dire vraiment que c'était un lieu où le Seigneur Jésus passait beaucoup de temps. Et donc, comme je le disais, j'aimerais vous inviter à accompagner le Seigneur lors de cette journée passée dans cette ville de Capernaum. Le Seigneur, il a rappelé à ceux qui étaient autour de lui et qui voulaient le garder dans ce verset 42, ils voulaient garder le Seigneur que pour eux, ces habitants de Capernaum. Et le Seigneur leur dit, il faut aussi annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car, dit-il, c'est pour cela qu'il a été envoyé. Donc, ces habitants voulaient, voilà, reste avec nous. Ils appréciaient, ils aimaient le Seigneur Jésus et à travers aussi tout ce qu'il faisait. Mais le Seigneur leur dit, il faut que j'aille aussi dans les autres villes, parce que c'est aussi pour cela que j'ai été envoyé, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc le Seigneur a une journée assez chargée, même bien chargée. Déjà, on nous dit au tout début que le jour du sabbat, hein, au verset 31, donc il a enseigné dans la synagogue, il a délivré un homme qui avait un esprit impur. Après, lorsqu'il sort de la synagogue, verset 38, il va donc dans la maison de Simon-Pierre, peut-être ou certainement pour se reposer, mais là, on lui demande de venir au secours de la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre et il va guérir la belle-mère de Pierre. Et le soir, il est dit au verset 40, après le coucher du soleil, on lui amène donc des malades atteints de toutes sortes de maladies pour qu'il leur impose les mains et les guérisse. Et après, on voit qu'il est dit dès le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il sort et va dans un lieu désert, peut-être pour dormir, vous pensez ? Pour prier. Alors c'est Marc qui nous le dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Le Seigneur va dans un lieu désert très tôt le matin pour prier. Et donc tous se mirent à sa recherche, voulant qu'il reste avec eux. Et donc là on voit le fait d'avoir tout le temps du monde avec soi, c'est pas facile. C'est agréable, mais c'est fatigant. Et donc le Seigneur était constamment avec du monde, tout le temps sollicité. Mais au lieu de rester à Capernaum, il décida de partir donc dans toute la Galilée pour prêcher dans les synagogues et pour chasser les démons. Le Seigneur Jésus, donc, il avait une journée très chargée. Il devait constamment répondre aux sollicitations des uns et des autres. Pour lui, il y avait comme une urgence. Pour lui, il n'y avait pas de temps à perdre. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Quand il dit au verset 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes. Donc il y a là comme une urgence pour lui, de bien qu'il est bien accueilli dans cette ville de Capernaum, mais Il savait qu'il ne devait pas se limiter à cette ville-là. Il fallait que cette bonne nouvelle soit annoncée un peu partout. Donc, durant cette journée à Capernaum, le Seigneur Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu quand il était donc à Capernaum. Il a fait, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, il a annoncé cette bonne nouvelle du royaume de Dieu en enseignant dans la synagogue. Il l'a fait lorsqu'il a manifesté toute sa puissance, son autorité sur toutes sortes de maladies, aussi bien maladies physiques pour la fièvre de la belle-mère de Pierre, que maladies spirituelles, ces personnes qui étaient possédées par des esprits impurs. Mais aussi, il a annoncé cette bonne nouvelle du royaume en prêchant, il est dit après lorsqu'il part dans les synagogues, en prêchant cette bonne nouvelle en tout lieu. Le Seigneur Jésus est venu, il le dit, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu souligne le fait que Dieu y règne sur toutes choses. Mais là, le Seigneur parle du royaume, je dirais, dans un premier temps spirituel. Il a dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, dans Jean chapitre 19. Et Jean-Baptiste a pu dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et le Seigneur Jésus-Christ, dès le début dans son ministère, c'est ce qu'il dit aussi. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il va dire à Nicodème que pour entrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Et il va continuer, il dit que pour entrer dans ce royaume, il faut être né d'eau et d'esprit. Et il continue en donnant l'exemple de Moïse dans le désert qui a élevé ce serpent et que les gens devaient regarder ce serpent pour être guéris. Et il dit de même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, nous voyons que pour entrer dans le royaume dont Jésus-Christ parle, et on a lu ce texte de Tite, il est venu se faire un peuple. Pour entrer dans ce royaume, il faut croire en Jésus-Christ. Et c'est d'abord un royaume, je dirais, spirituel, où Dieu il veut toucher les cœurs, et il veut régner dans les cœurs. Mais il viendra aussi où le temps où Jésus-Christ va revenir sur la terre pour régner sur cette terre. Dans Apocalypse chapitre 19, chapitre 20, il est parlé de cela. Et toutes les nations viendront et vont adorer le Seigneur. Ils vont venir s'incliner devant le Seigneur. Et donc, ce royaume, le Seigneur est venu l'annoncer. Et il donne la clé pour pouvoir y entrer. Et il est lui la clé, c'est en lui qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle. Alors, si on vous dit, on vous pose cette question, êtes-vous entré dans le royaume de Dieu? Êtes-vous membre du royaume de Dieu? Et même l'apôtre Paul, il dit que ceux qui croient au Seigneur dans Colossiens 1, que Dieu les a arrachés de la puissance des ténèbres pour le transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, entrer dans le royaume de Dieu revient à dire croire en Jésus. C'est avoir la vie éternelle. Donc, c'est soit on est dans le royaume de Dieu ou on ne l'est pas. Et donc, le Seigneur, là encore, comme ça a été dit ce matin, adresse cette invitation. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour entrer dans ce royaume, il faut se repentir et croire à la bonne nouvelle, croire que c'est Jésus que Dieu a envoyé pour permettre à l'homme d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est là cette bonne nouvelle que Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est de croire en Jésus-Christ. Pierre, il a pu confesser, il a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre par lequel nous pourrions être sauvés. Donc il y a Jésus est le seul moyen de salut. C'est par Jésus seul qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce qu'il a donc expliqué aussi à Nicodème. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quand Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. Le Seigneur Jésus est le roi qui était attendu. C'est lui le Messie que le peuple juif attendait, mais malheureusement ils l'ont rejeté. Alors comme ils l'ont rejeté, le Seigneur a mis en exécution son plan qui de cette promesse qu'il avait faite à Abraham, que toutes les nations seront bénies en lui. Et donc par ce rejet aussi, ça a donné le point de départ où quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses apôtres, il a dit, voilà, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, et tous ceux qui entendent cette bonne nouvelle, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, entrent dans le royaume de Dieu, ils ont la vie éternelle et ils savent qu'ils appartiennent à Dieu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il a annoncé durant cette journée à Capernaum la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il l'a fait en enseignant la parole dans la synagogue. C'est ce qu'il est dit au verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. On avait déjà vu dans le chapitre 4, verset 16, que Jésus, c'était selon sa coutume, il aimait aller dans la synagogue pour entendre, mais aussi pour lire, pour enseigner. Et au verset 16, c'est ce que nous avons vu. Il enseignait aussi la foule lorsqu'il était sur la montagne, et puis voilà, il parle à la foule et il enseigne. Il a enseigné de diverses manières, en utilisant des paraboles. Il a donné des paraboles et après il en donnait les explications à ses disciples en particulier. Le Seigneur enseignait, lorsqu'on voit plusieurs passages, il enseignait la voie de Dieu selon la vérité, selon Matthieu 22, verset 16. Il enseignait pour apprendre aussi à ses disciples ce qui allait lui arriver, parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. Donc il leur dit, voilà, que le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem et on va l'arrêter, voilà ce qui va se passer. Il leur enseignait aussi pour leur dire ce qui va se passer dans la suite des temps. Matthieu chapitre 24. Et il dit, voilà, lorsqu'on va vous emmener devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Seigneur vous donnera à l'instant les paroles qu'il faudra. Et les disciples qui posent la question, mais quand est-ce que ça va arriver? Il leur dit, c'est pas à vous de savoir le temps et les moments. Donc il leur a enseigné sur les choses à venir également. Il leur a même aussi enseigné à prier. Lorsque Jésus était en train de prier, les disciples ont dit, mais apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste apprend à prier à ses disciples. Et puis là, il dit, voilà ce que vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Il leur apprend à prier. Le Seigneur leur a enseigné il a rappelé la parole de Dieu. On a pris l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a dit, voilà, tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et donc, ses disciples, à travers les Écritures, le Seigneur lui a enseigné à ses disciples, voilà, ce qui le concernait. le Seigneur Jésus-Christ, il a enseigné. Il a donc, il a annoncé cette bonne nouvelle à travers l'enseignement qu'il a donné. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était à Nazareth, lorsqu'il prend le texte d'Ésaïe et il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il leur lit et après il leur dit, ben, ce que vous venez d'entendre est accompli. C'est un enseignement qu'il leur donne. Voilà, ce texte que vous venez d'entendre là, que vous avez lu, alors c'est accompli. Le Seigneur annonce la bonne nouvelle dans ce temps à Capernaum aussi, en manifestant sa puissance et son autorité sur toutes sortes de maladies, comme je disais, et ça on le voit dans le verset 33 à 41. À chaque fois, il est souligné qu'il menaça, hein, il menaça l'esprit impur qui était dans cet homme, et l'esprit l'a jeté et sorti de cet homme. Hein. Pour la belle-mère de Pierre, il menaça la fièvre, et après, il est parlé aussi qu'il menaça. Il est dit, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qui il était. Donc le Seigneur, à chaque fois, a usé d'autorité face à ces esprits impurs, face aussi aux maladies. Donc par ses actes, par les prodiges qu'il a opérés, le Seigneur Jésus-Christ a montré qu'il est celui qui domine sur toutes choses. Il est celui qui peut délivrer l'homme de tous ses maux. Il a autorité sur tout. Il a autorité sur les puissances démoniaques. Il est tout puissant pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Jésus, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, comme ça a été souligné, a manifesté sa puissance en menaçant les esprits impurs ou en menaçant la fièvre qu'avait donc la belle-mère de Pierre. Le Seigneur a montré aussi qu'il avait autorité sur les éléments de la nature. Souvenez-vous, lorsque il était dans la barque avec ses disciples et puis il y avait cette tempête, les disciples étaient complètement affolés. Ils viennent réveiller le Seigneur. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'il a menacé le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Donc le Seigneur Jésus-Christ, là encore, il a menacé, voyez, le vent et la mer, silence, tais-toi. Et donc le Seigneur a montré qu'il avait pleine autorité. Et c'est là aussi cette bonne nouvelle qu'il vient annoncer et qu'il vient montrer. Ces prodiges, ces miracles qu'il a pu accomplir attestent de ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu, il est le Tout-Puissant et on peut avoir pleinement confiance en lui. L'autre chose que Jésus-Christ a fait durant cette journée, en annonçant cette bonne nouvelle du royaume, il est dit au verset 42 à 44 que donc ces habitants de Capernaum voulaient vraiment qu'il reste avec eux. Ils voulaient le garder que pour eux. Et le Seigneur dit non, non. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, il prêchait dans les synagogues. C'est un peu, je dirais, un peu différent d'enseigner. Le Seigneur, par prêcher, c'est le fait de publier, le fait de proclamer, de crier, comme Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le Seigneur Jésus, il a prêché le même message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, dans Matthieu 4. Prêcher, c'est publier, c'est dire ouvertement ce que Dieu a fait pour nous, comment il a fait, voilà, c'est rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Ce lépreux, dans Marc chapitre 1, verset 45, le Seigneur a guéri un homme de la lèpre. Et le Seigneur dit, va vers le sacrificateur et il fait ce qu'ordonne la loi. Et le Seigneur dit, voilà, ne dis rien à personne. Mais ce lépreux à qui Jésus avait dit, non, ne dis rien à personne parce que son heure n'était pas encore venue. Il voulait pas qu'on vienne le proclamer roi. Il n'était qu'au début de son ministère. Mais cet homme qui a été délivré de la lèpre, c'était beaucoup plus fort que lui. Il pouvait pas se taire. Et qu'est-ce que le texte nous dit dans Marc chapitre 1, verset 45? Il se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer. Publier ouvertement la chose, et c'est le même terme qui est prêché. Cet homme aussi, qui était possédé d'un esprit impur à Gadara, dans Marc chapitre 5, 19 à 20, le Seigneur lui dit, je ne le lui permis pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Il voulait venir avec Jésus. Jésus dit, non, tu vas pas venir avec moi, mais va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc voilà, il a publié, voilà, il a prêché, il a dit ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc ce que j'aimerais voir avec vous, donc à travers tout cela, c'est que le Seigneur Jésus, durant sa journée, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a fait de diverses manières, comme on l'a vu, en enseignant, en manifestant sa puissance, en prêchant dans les synagogues, en disant aussi tout ce que Dieu peut faire. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché, selon 1 Jean chapitre 2, verset 6. Donc c'est là l'exhortation, c'est-à-dire que si Jésus-Christ, pendant sa journée, il avait à cœur, c'était pour lui une priorité, il y avait même une urgence d'annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et il dit que c'est pour cela que j'ai été envoyé, n'est-ce pas aussi pour nous une nécessité d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu ici, mais aussi dans les autres villes. Nous pouvons, comme le Seigneur Jésus-Christ, annoncer cette bonne nouvelle du royaume en enseignant sa parole. Mais pour enseigner sa parole, il faut vouloir d'abord être enseigné par la parole. Parce que si nous voulons dire à une personne, voilà ce que la Bible dit, ce qui est écrit, comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous annoncer cette bonne nouvelle à une personne, à un collègue, à quelqu'un de la famille, si nous-mêmes, nous n'avons pas été enseignés, nous ne sommes pas mis à l'écoute de la parole de Dieu pour être enseignés par lui, pour être capables d'après enseigner aux autres. Et si nous avons mis cette formation de disciples, c'est parce que il est important que nous ayons une meilleure connaissance de la parole de Dieu pour être capables d'enseigner aussi cette bonne nouvelle aux autres. Alors, est-ce que ça nous intéresse ou est-ce que ça ne nous intéresse pas? Dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, écoutez ce que dit l'auteur. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, etc. Donc, il y a pas mal de points difficiles à aborder, mais ils voyaient que ces auditeurs n'étaient pas capables, prêts à entendre, à recevoir l'enseignement qu'ils voulaient leur donner. Le Seigneur Jésus, à un moment, a dit ça aussi à ses disciples, que pour l'instant, il y a un temps où ils ne sont pas encore prêts, mais viendra le temps qu'ils pourront recevoir l'enseignement. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions que si nous voulons être de bons témoins de Jésus-Christ, annoncer cette bonne nouvelle, que nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, et cela passe par le fait d'être enseigné par la parole. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Église, nous organisons ces rencontres. Il y a le culte, il y a les études bibliques. C'est pas pour rien. C'est pour que nous grandissions dans la connaissance de Dieu, pour que chacun puisse être capable d'expliquer à celui qui ne connaît rien de la Bible le béaba, au moins le béaba, et annoncer cette bonne nouvelle du royaume pour que montrer en quoi Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en quoi c'est lui qui peut sauver. L'autre chose, c'est que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en rappelant que le Seigneur Jésus est tout puissant pour délivrer, pour guérir, pour sauver. Oui, notre Seigneur, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ fait encore des miracles. Nous savons aussi et nous croyons qu'il est un Dieu souverain, qui fait ce qu'il veut. Et que nous n'avons pas à le commander. Il fait ce qu'il veut. Mais avons-nous assez de foi pour croire que Dieu peut sauver, que Dieu peut guérir de toute maladie ou délivrer de toutes sortes d'emprises démoniaques? En Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur dit à ses disciples: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc le Seigneur que nous servons, c'est le même qui a apaisé la tempête. Il attend de nous que nous lui manifestions notre foi. Et ça se le fait par la prière. Nous avons prié combien de temps pour cet enfant qui avait cette leucémie. Et là, par la grâce de Dieu, il est rentré chez lui avec sa maman. Donc le Seigneur fait des miracles. Ce n'est pas la chasse gardée de certains. Non. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui est tout puissant et nous pouvons prier tout en nous soumettant à sa volonté, à sa souveraineté, que oui, Seigneur, tu peux apaiser la tempête. Oui, Seigneur, tu peux guérir de cette maladie. Oui, Seigneur, tu peux délivrer cette personne qui est possédée d'un esprit impur. Tu peux. Et le Seigneur agit selon sa grâce. Et lorsque nous mettons notre foi et que le Seigneur agit, la personne voit la puissance de Dieu qui est agissante en elle ou dans la vie de l'autre personne, alors la personne reconnaît que c'est Jésus qui est Seigneur. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. L'autre chose aussi, c'est que il prêchait dans les synagogues, là, dans toute la Galilée. Et bien sûr, nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle en prêchant aussi. Prêcher le même message que le Seigneur Jésus a prêché. Il n'y a pas d'autre message. Dire, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15, il est dit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Voilà, il a prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le message qu'il donnait. Il n'a pas changé ce message. Et lorsque le Seigneur Jésus, il a envoyé ses apôtres de ville en ville, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et ils prêchèrent la repentance, il est dit. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Lorsque il dit dans son discours sur le mont des Oliviers, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Voilà. Donc, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors, c'est de notre responsabilité de le faire. Prêcher, comme on l'a vu, c'est dire ouvertement ce que le Seigneur a fait pour nous, les miracles qu'il a opérés dans nos vies, comme l'ont fait ces lépreux ou ces démoniaques. Prêcher, c'est aussi en ayant le désir d'annoncer cette bonne nouvelle dans les autres villes. Le Seigneur, il avait ce désir-là. Il voulait pas juste se cantonner à Capernaum. Il voulait que toutes les villes puissent entendre cette bonne nouvelle. Est-ce que nous avons aussi ce désir? Est-ce important aussi pour nous? Est-ce que nous voulons seulement nous cantonner à notre immeuble? Ou bien notre rue? Ou bien est-ce que nous voulons aller ailleurs? Annoncer l'évangile? Distribuer des traités? Pourquoi nous faisons tout ça? C'est parce que nous voulons que cette bonne nouvelle du royaume soit entendue, soit reçue, soit annoncée. Et donc, lorsque nous allons faire cette distribution de traités, est-ce que nous allons penser à ça, de dire, voilà, alors que tout le monde puisse, toute Savigny puisse entendre, puisse avoir un traité, puisse dire, voilà, c'est le message, là ça sera sous le thème de Pâques, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Ou bien est-ce que on va rester là sans rien faire. Donc, le Seigneur, il avait des journées chargées, comme on l'a vu. Il a cette journée, mais il prenait le temps d'aller, il est dit aussi, dans un lieu désert pour prier. Et il avait besoin de se retrouver avec son Père. Et pour annoncer efficacement cette bonne nouvelle, nous avons besoin aussi, parce que Jésus, lui, en avait besoin, nous avons besoin aussi d'avoir ce temps avec Dieu, de prendre ce temps avec Dieu pour nous ressourcer en lui, pour chercher sa direction, pour savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et donc, prier, c'est très important. Donc, annonçons, frères et sœurs, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ceux qui sont proches de nous, en leur disant ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il peut faire aussi pour eux. Acceptons d'être enseignés par Dieu en étudiant sa parole régulièrement à la maison, en profitant des occasions que nous vous offrons de pouvoir étudier la parole, mais aussi pour être capable d'enseigner aux jeunes disciples de la parole de Dieu. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la parole. Donc, disons que oui, le Seigneur est tout-puissant et il peut guérir et il peut sauver. Terminons avec ce texte de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je vais lire à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission, l'ordre de mission du Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous, c'est de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner à observer ce qu'il a, il a prescrit. Et donc pour cela, pour que cette bonne nouvelle du royaume soit constamment, continuellement annoncée jusqu'à ce que notre Seigneur revienne.